Bonjour et bienvenue à tous dans We Speak Cloud, le podcast qui vous parle de cloud et DevOps, présenté par moi-même, Thomas Gérardin, Cloud Builder chez WeScale. Et aujourd'hui, on continue notre aventure sur le cloud native après avoir entendu Ismaël qui nous a parlé de son point de vue de développeur et après avoir entendu Bastien qui est venu nous raconter un peu sa vision en tant que CTO de la gouvernance de cette nouvelle problématique, on va dire. Bah, on va accueillir une nouvelle personne pour nous parler du cloud native et du coup vous donner une vision encore plus complète du sujet. Et pour ça, bah, du coup, je vais laisser cette personne se présenter. Donc Philippe, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Eh ben, bonjour tout le monde, moi c'est Philippe Antoine. Merci pour l'invitation, moi je suis ravi de participer à ce podcast. Et pour me présenter rapidement, je suis ingénieur avant-vente chez Google, donc Google Cloud France. Sur les sujets avec des clients secteur public. Et donc, j'aide les clients à migrer vers le cloud. Ça, c'est la version simple.
Bah, écoute, de rien. On a eu plaisir de te recevoir dans ce podcast. Mm-hmm. Du coup, comme tu sais, tu es avant-vente. Donc, du coup, tu vas être finalement le premier contact un peu avec les clients. Et c'est peut-être un peu toi qui vas introduire les notions de cloud native chez certains clients. Parce que je pense qu'ils ne sont pas tous à un niveau de maturité qui soit suffisant pour avoir une vision bien tranchée, on va dire. Donc toi, est-ce que tu pourrais un peu nous dire la vision que tu as du cloud native et à quoi tu peux l'opposer aujourd'hui vis-à-vis des clients que tu rencontres ? Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que même avant de rentrer chez Google, j'étais dans une société de service en tant que consultant sur des sujets cloud aussi. Donc j'ai vu un peu les clients, donc j'ai vu pas mal de clients passer et j'ai vu les clients qu'on rencontrait évoluer un peu sur ce sujet-là. Alors, ce que je fais moi maintenant, quand je rencontre des nouvelles personnes techniques. Donc, moi, je m'occupe de tous les sujets, on va dire techniques, et puis je suis en binôme avec un sales qui s'occupe de tous les sujets sales. Donc, on va dire dès qu'il y a de la technique, c'est pour moi. Voilà, ça c'est la frontière. Et puis les autres sujets aussi, c'est plutôt avec mon binôme. Donc, sur les sujets techniques, moi, j'aime bien démarrer pour comprendre quel est leur business en fait. Dans leur entreprise ou dans leur organisation, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Ensuite, j'aime bien un peu essayer de clarifier un peu quels sont leurs challenges. Donc, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous parler ? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous, peut-être ? Donc, c'est pour ça, voilà, pour bien être sûr de ce qu'ils cherchent à résoudre. Ou est-ce que c'est du discovery ? Enfin, voilà, clarifier un peu la situation. Et une fois qu'on est parti du besoin, et ben là, après, on rentre assez vite dans la technique sur le comment est-ce qu'on peut faire chez nous, comment ce qu'on peut faire dans un cloud et en particulier chez Google Cloud. Alors, cloud native, c'est pas un sujet que j'aborde instantanément. D'abord, je veux savoir d'où ils partent. Donc, dans tous les clients que j'ai, c'est vrai que parfois, quand on dit cloud, on n'a pas la même définition déjà de cloud. Donc, parfois, pour eux, cloud, c'est avoir Google Workspace et donc avoir les mails, c'est tout. C'est même pas avoir une VM. Parfois, même la notion de VM, ça peut être compliqué. Donc voilà, on discute, j'essaie de voir où ils en sont. Donc ça, c'est un type de client que j'ai. Et puis aussi, j'ai d'autres types de clients où on démarre la discussion et là, on parle de cluster Kubernetes instantanément et l'autoscaling. Donc voilà, j'ai une sorte de range de clients. Et une fois qu'on est parti de un, de quoi ils ont besoin, et deux, où est-ce qu'ils sont techniquement, alors on peut avancer. Peut-être un peu tu me demandais, enfin je sais pas, la question c'était est-ce que quel genre de type de client j'ai, quelle est leur maturité. Peut-être en volume, ce que j'ai c'est on va dire 80% de mes clients, voilà, ils ont déjà créé une VM dans un cloud public, donc ça c'est bien. J'ai 10% de mes clients qui ont, qui savent pas du tout ce que c'est que le cloud, donc ils viennent découvrir. Et puis j'ai 10% aussi de techniques hardcore. Qui ont des sujets très très compliqués et qui viennent nous voir parce que justement c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama.
Ouais, t'as un peu tout le scope de maturité au niveau
donc
de tes clients.
Tout le scope. Après, souvent, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi pas mal de peut-être presque de fantasmes en fait de gens qui sont avec des infrastructures on-premise et qui qui ont envie de passer à quelque chose de nouveau. Ils ont envie de beaucoup de choses. Après, parfois, il faut réussir à clarifier un peu et peut-être trouver la prochaine étape pour les faire monter d'un cran vers ce qu'on peut appeler du cloud natif ou autre.
Quand tu parlais justement de tes clients, tu disais qu'il y avait quand même une grosse proportion au final qui n'était pas du tout à l'aise avec les notions de cloud et qui était encore un peu à l'ère d'avant le cloud, on va dire. Et justement, dans cloud natif, ben, on a le mot cloud.
Ouais, ouais.
Et on a aussi, souvent le mot cloud qui est au final un peu sous-entendu cloud public. Parce que quand on entend ça dire cloud, souvent, on sous-entend maintenant cloud public. Ouais. Heureusement, malheureusement, mais on perd en précision. Et est-ce que pour toi, cette approche finalement cloud native, elle est rattachée au cloud ou au cloud public en tout cas?
Donc moi, ce que je vois, hein, c'est effectivement, il y a... quand j'entends du cloud native, on a tout de suite en tête, parce qu'on est bercé par ça aussi de notre côté, on est un peu, on est biaisé côté Google Cloud, on en fait toute la journée, donc nous, cloud native, ça signifie quelque chose peut-être d'un peu avancé, où des gens, ils ont déjà des bonnes pratiques d'installer, peut-être du DevOps, ils vont peut-être même jusqu'à du SRI ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas ce que je vois moi en face quand on parle de cloud. Ça peut être parfois alors cloud native, juste on démarre de cloud. Parfois cloud, ça peut être uniquement faire du Google Workspace, du mail. D'autres pour certains cloud, c'est du stockage et puis des machines virtuelles. D'autres cloud, c'est être complètement cloud et d'avoir aucun serveur à la maison. Et puis certains cloud natifs, c'est essayer d'aller dans les meilleures pratiques et d'aller chercher les techno cutting edge. Donc je vois un petit peu de tout. C'est du 80-20. En général, les 80% de mes clients, ils savent ce que c'est qu'un cloud public. Ils ont déjà utilisé un petit peu créé des machines virtuelles, du stockage. Et puis j'ai 10% qui a besoin de comprendre ce que c'est et 10% qui est très très accroché. Ils ont déjà presque parfois ils savent plus de choses que moi. Et puis ils ont des questions super spécifiques. Voilà. Donc est-ce que ça s'oppose à quelque chose? Ça dépend des gens avec qui on parle. Voilà.
Donc du coup, en fonction, vu que les topologies clients au final sont très diverses, globalement le terme ouais. cloud natif pour toi dépend aussi de la maturité du client, qui ne font pas avoir en tout cas les mêmes objectifs ouais. avec le cloud natif.
Et après, on revient à ce dont ils ont vraiment besoin. Par exemple, s'ils ont une petite base de données où ils font très peu de traitements et puis en fait ils ont juste besoin d'ajouter quelques lignes toutes les semaines. Bon, est-ce qu'ils ont besoin d'aller déployer un cluster Kubernetes? Non. Donc on essaye aussi de simplifier les choses pour pas mettre en place des usines à gaz alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Après, quand on sent qu'il y a des choses sur lesquelles ils sont bloqués, où on se dit, tiens, là, c'est dommage, s'ils utilisaient, s'ils changeaient un peu la façon de s'organiser, ils s'organisaient différemment et qu'ils faisaient un petit peu de DevOps, ils éviteraient des problèmes de production, tout un tas de choses. Là, on essaye de proposer des choses nouvelles et puis on grimpe sur l'échelle vers du cloud natif plus intéressant. Après, l'idée, c'est quand même de leur proposer des choses intéressantes, qui résout ce qu'ils essaient de craquer quoi chez eux. Après, il y a une question aussi que je pose souvent, c'est de savoir la taille des équipes que j'ai en face. Parfois, c'est des clients avec un ou deux développeurs qui font tout. Donc là, ils ont forcément un temps limité, c'est des gens couteau suisse, ils n'ont pas le temps de tout découvrir. Donc on essaye d'être pragmatique et puis de choisir des sujets qu'ils vont pouvoir faire dans un temps raisonnable, quoi, en moins de 6 mois, qu'ils soient capables de le faire. Si par contre c'est des équipes plus grosses, plus organisées, avec, je sais pas, une équipe de data scientist, une équipe de prod, une équipe de développeurs, bon, là on peut commencer à faire plus de choses et puis imaginer. Leur capacité en temps, c'est important de clarifier ça. Et puis parfois ils sont nombreux et ils livrent pas grand chose. Donc là peut-être qu'il y a des sujets d'organisation. Et là, du coup, nous, on partage presque plus. Donc là, on enlève un peu la casquette technique et on remet une casquette org. Et on se dit, bah, peut-être, on essaie de réfléchir avec les clients, avec eux, pour se dire, bah, comment est-ce qu'on pourrait peut-être un peu changer la façon dont vous avez de répartir votre temps pour éviter... souvent, ce que j'ai, c'est des équipes de prod qui éteignent les feux toute la journée et qui prennent pas le temps de construire leurs outils pour éviter qu'il y ait un nouveau feu demain. Bon, bah ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent et que j'aime bien aborder, quoi, les bonnes pratiques DevOps et autres.
Oui, c'est un peu classique. Ouais. Je l'ai bien connu aussi côté Ops, les situations où bah, tu passes ouais, ton temps à
éteindre les feux,
à éteindre les incendies, et tu n'as pas forcément le temps de construire des systèmes anti-incendie, quoi, entre guillemets. Donc, c'est une problématique aujourd'hui qui est importante. Mais je pense que tu fais bien de le souligner. Le plus important, c'est de s'adapter, en fait, au-delà de la maturité, aux capacités des équipes. C'est vrai qu'on a tendance, des fois, un peu aussi à voir. Et ça, je pense aussi, tu vois, typiquement, les conférences et tout ça, ça aide pas forcément. Voilà. Et on voit toujours le truc un peu cutting edge, etc. On a envie de faire des trucs, des fois overkill. Et Kubernetes en est souvent un exemple que je prends, où on le met dans des petites équipes qui avaient des besoins ultra simples, même si, encore une fois, voilà, je crache là-dessus sur Kubernetes, ça va faire gueuler dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, sentez-vous libre de le dire et de nous expliquer pourquoi. Mais voilà, en tout cas, ouais, je pense que c'est très important d'insister là-dessus et de dire qu'il faut s'adapter aux capacités de l'équipe et à leur maturité. Et du coup, le cloud native, en fait, il va apporter quelque chose au client. Et toi, du coup, tu as sûrement des fois à l'expliquer. Et pour toi, qu'est-ce qui va apporter concrètement un avantage pour les équipes et pour l'entreprise en elle-même? Et est-ce que c'est long, en fait, que ces avantages, en fait, prennent forme? Est-ce que on va l'avoir au bout d'un mois? Imaginons, on peut commencer à en tirer des avantages, ou est-ce qu'il faut vraiment voir sa stratégie à beaucoup plus long terme? Là-dessus, t'en penses quoi?
Alors là, c'est pareil. J'évalue, quand je vois qu'il y a une nouvelle équipe, j'évalue où est-ce qu'ils en sont en termes de culture. Donc ça, c'est important. Par exemple, dans une vie précédente, j'avais aidé un client, une banque, à monter une équipe où on développait tout dans le cloud. Bon, et on a embarqué, donc on était des externes et des internes, on s'est mis ensemble, et puis on a démarré des premières bonnes pratiques, et on a tout déployé dans un cloud public. Je me souviens, c'était une mission, elle avait duré 42 sprints, ça m'avait marqué 42 sprints, donc des sprints de 2 semaines. Donc c'était assez long finalement, mais à la fin, on va dire que l'équipe tournait bien, on avait fait des grosses mises en production, on était parti de zéro, on avait tout construit et tout dans le cloud. Et je me souviens qu'à la fin de ce 42e sprint, je m'étais dit, voilà, là on a une équipe qui est stabilisée, et puis ça tourne bien, tout était scripté partout, on pouvait faire plusieurs mises en production par jour... voilà, donc là on était arrivé j'ai vu de zéro à quelque chose qui tourne bien, une équipe qui fonctionne bien. Donc ça, c'était une satisfaction. La question, c'était combien de temps ça prend? Oui. Et alors après, donc ça, 42 sprints, c'est finalement assez long quand même, hein. Donc ça fait plusieurs mois, voire une année. Et en fait, il a fallu construire la culture parce que, qu'est-ce que ça veut dire déployer plusieurs fois par jour? Ça veut dire que aussi il y a les product managers, les product owners. Donc il y a un product owner déjà, il n'y en avait pas avant. Et il y a un product owner qui dit oui, cette feature, je veux bien qu'elle parte en production plusieurs fois par jour. Enfin, cette feature. Oui, oui, oui. Donc il y a de la communication qui est fluide. Et ça, c'est pas forcément évident dans tous les contextes. Voilà. Et parce qu'ils avaient envie de changer, alors ça a fonctionné. Ensuite, j'ai aussi d'autres cas où ça va beaucoup plus vite. Je pourrais pas parler de tous mes clients parce qu'il y a certains clients, c'est un peu confidentiel, mais dans le secteur public, j'ai des équipes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit, bah écoutez, là on a un projet, on démarre le projet. Ils étaient très au courant des nouvelles techno et en quelques mois, ils avaient monté leur infrastructure et ils étaient en production. Donc là, ils sont allés très très vite pour moi, parfois presque trop vite. C'est-à-dire que est-ce qu'ils étaient suffisamment bien organisés pour aller faire de la production tout de suite et en plus développer les futures features? voilà, c'était un peu à marche forcée. Donc voilà, donc je dirais oui, de quelques mois à un an, mais le plus important, c'est d'avoir envie à la fois de découvrir les technos, ça c'est bien, mais de bien créer une culture qui fonctionne pour pouvoir livrer régulièrement, et puis quand il y a un problème, pas se taper dessus, et puis essayer de comprendre, et puis de résoudre le problème pour la prochaine fois, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc je parlerai plus culture, en fait, que techno. Voilà, la techno, on va dire, c'est la conséquence.
Mais globalement, du coup, effectivement, tu insistes là-dessus, et je pense que c'est un bon point sur la partie culture. Et en fait, on en parle au final depuis quelques années, hein, avec le DevOps déjà, on n'arrêtait pas un peu de rabâcher. Plus important, c'est pas les outils, c'est la culture, et c'est ça qui doit être pris en premier. Donc là, c'est vrai que c'est assez...
Et après, peut-être aussi, il y a des contextes dans lesquels ça marchera pas, parce que les gens ne se parlent pas assez dans l'organisation. Donc si les gens sont dans des bureaux fermés, la porte est fermée et qu'ils veulent pas parler aux autres, bon bah dans ces contextes-là, est-ce que c'est possible même de livrer plusieurs features par jour si la porte est fermée? Non, enfin c'est un peu pas peine perdue, mais voilà, si les gens veulent pas se parler, c'est pas possible en fait d'améliorer les choses. Donc souvent aussi chez des clients, il y avait des choses que je répétais souvent, et c'était deux mots, c'était parler plus, voilà. Et donc parler plus, c'était ça pouvait paraître évident, mais ça l'était pas forcément. Et donc tout ce qui était aussi peu importe la façon, la méthodologie, si c'est une méthode agile ou pas, un post-it sur un mur, si ça sert pas à démarrer une discussion, ça sert à rien, le post-it sur le mur. Un ticket dans Jira, si ça sert pas à démarrer une discussion, c'est pareil, ça sert à rien. Donc c'est pas là pour contraindre, c'est là pour aider à ce que les gens se parlent, pour que ça soit plus fluide, pour qu'on aille plus vite et pour que le boulot soit intéressant. Donc
oui, clairement. Ouais. Bah, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Tu disais quand un client et les équipes en général sont plus à même et veulent ce changement, ça peut se passer très vite et surtout très bien, alors que ça peut être plus douloureux s'il y a de l'opposition. Et ça, c'est un peu, on va dire, une arlésienne. C'est comme ça avec tous les changements, on va dire, globaux dans les entreprises. Et c'est d'autant plus vrai pour les choses comme le cloud native, comme le DevOps, qui requiert justement beaucoup de communication. Mais on parle du coup là pas mal de communication au final, et on va dire de non-technique, oui. Et en disant que c'est vrai que c'est le plus important, mais les outils, ça reste quand même important dans l'approche cloud native. Et du coup, souvent, cette approche cloud native, au-delà de la lier à cette notion de cloud, comme on disait tout à l'heure, et de cloud public, on la lie souvent avec la notion en fait de service managé, surtout de serverless, qui revient de plus en plus ces dernières années, en disant que au final, l'usage du serverless, c'est du cloud native. Est-ce que pour toi, ces deux notions, encore une fois, elles sont si liées, et est-ce que si j'utilise que du cloud, que du serverless, justement, on peut dire que je suis cloud native, on va dire, par défaut?
Je suis un peu embêté, mais alors pour aller faire du serverless, ça veut dire aussi qu'on s'est posé les bonnes questions en amont. Donc imaginons qu'on ait des besoins serverless, c'est super, on déploie des choses en serverless. Est-ce qu'on est cloud native juste parce qu'on a du serverless? Moi, je relierais plus, effectivement, cloud native à de la culture que à des technos. Serverless, il y a beaucoup de choses aussi dedans, hein. Et puis c'est encore des choses qui bougent très vite. Nous, chez nous, serverless, c'est Cloud Run. Chez d'autres, ça a d'autres noms. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est un sujet qui bouge assez vite. Serverless, on imagine peut-être des choses. Donc au début, c'était je code ma petite fonction qui va se déclencher que quand je l'appelle. Et puis tout d'un coup, serverless, c'est tiens, je vais avoir quelque chose d'un peu plus conséquent qui se retrouve dans un container que je peux appeler à la volée. Et puis même maintenant, on n'a même plus besoin de faire le container. On dit voilà mon code avec les build packs, ça va me créer mon container automatiquement et ça va me le déployer sur Cloud Run. Ça devient de plus en plus intéressant. Et puis en fait, serverless c'est en train de grignoter en fait sur tout le reste. Si j'ai besoin de déployer du serverless, comment ça marche? Nous on a un, des outils qui s'appellent CodeDeploy, qui en fait permettent de déployer des applications avec Cloud Run. Donc ouais, on voit que ça grignote, les sujets de plus en plus. Et puis même côté, si je mets ma casquette, donc on a une casquette Ops quand on parle de serverless, mais pas que. On a aussi la casquette Dev. Et moi j'aime bien, j'ai toujours aimé avoir les deux casquettes parce que en fait c'est super de coder quelque chose, mais on a envie que ça marche en production aussi, quoi. Donc avoir les deux casquettes, c'est intéressant. Et ce qui se passe, c'est que dans les produits serverless, maintenant, la frontière entre le moment où je code et le moment où je déploie, elle commence à être un peu plus floue et intégrée. Donc là, nous, on a de plus en plus aussi d'outils où c'est des outils dans le cloud, où en fait, je vais aller coder dans mon VS Code, qui est aussi, lui aussi, hébergé. Et puis en fait, j'ai même plus VS Code localement. Ça va pousser dans un repo, un repository Git, et puis ça va déclencher ma pipeline qui va déployer une nouvelle version d'un cloud run, et puis je vais pouvoir choisir qu'il y ait une partie de mon trafic de prod qui passe sur cette nouvelle version et voir si ça explose pas. Et à la fois et toujours dans mon VS Code hébergé, je vais pouvoir voir les logs et voir s'il y a des erreurs quoi dedans. Serverless, c'était au début quelque chose de finalement assez simple, quoi. Je déploie ma fonction, et puis là, ça devient quelque chose qui englobe tout. Et moi, ça me plaît pas mal parce que en fait, moi, j'ai juste envie de déployer une nouvelle feature en prod, et j'ai pas envie de switcher sur 50 000 environnements. Donc ça, je trouve ça intéressant.
Ouais, bah, comme tu le disais, c'est vrai que ça a gagné en maturité, hein, le serverless en général. Et du coup, bah, aujourd'hui, le serverless, c'est vraiment un écosystème, comme tu le disais, des outils, notamment du VS Code dans le cloud et des choses comme ça. Des choses d'ailleurs que Ismaël, qu'on a interviewé dans le premier épisode, que je vous invite à l'écouter, c'est pas encore fait, apprécie pas mal et utilise pas mal aussi. Donc, c'est des notions aujourd'hui qui sont intéressantes et qui, clairement, vont gagner du terrain. Je pense qu'avec le temps, là, ça va continuer à grandir et à intéresser de plus en plus de personnes. Et du coup, en continuant un peu sur ces notions, en fait, de nouvelles notions et d'importance qui changent un peu, il y a une notion qu'on voit de plus en plus au-delà de ça, qui est l'impact environnemental, en fait, bah, des applications et de nos métiers. Parce qu'on sait que les métiers de l'IT, quand même, ont un impact sur le monde et notamment sur l'écologie. Est-ce que, du coup, tu penses que le cloud native, par nature, du fait que... Bah, il va potentiellement créer des ressources de manière très transparente et peut-être sans qu'on le remarque, et peut-être faire des choses en arrière-plan un peu plus, on va dire. Est-ce que tu penses que cette approche, du coup, par design, entre guillemets, est plus polluante et plus négative, en tout cas pour l'environnement, ou tu penses qu'au final, ça s'équilibre et ça ne se ressent pas ?
Alors, sur ces sujets-là, donc pareil, on me pose la question de plus en plus. Donc, des clients qui viennent nous voir, qui me disent, au fait, qu'est-ce que vous faites sur les sujets sustainability, en particulier dans le cloud ? Bon, c'est des mots valises, hein, donc en dessous, il y a plein de sous-entendus. En fait, ça veut dire il y a plein de sujets derrière. Pour aller sur le sujet qu'on peut maîtriser, je trouve que c'est important de pouvoir mesurer l'impact de ce qu'on déploie sur le cloud. Donc ça, c'est assez nouveau. Nous, on a un truc qui s'appelle Carbon Footprint, où en fait, on voit par projet combien de quantité de CO2 a été, équivalent CO2 a été utilisé. Et donc, c'est des dashboards qui permettent de voir en fait s'il y a un moment où, je sais pas, on a laissé... une grosse machine tournée, un cluster Anthos tourné sans le voir. Là, on va voir les évolutions. Bon, il y aura aussi le billing. Parfois, le billing, il est quand même corrélé à l'impact environnemental. Donc, c'est bien de surveiller les deux. Mais mesurer, je pense que c'est important. Réussir à mesurer, parce que sinon, juste en parler, c'est un peu dommage qu'on a fait que la moitié du chemin. Donc, mesurer, et puis après, s'améliorer. Donc, se dire, comme on fait des revues, si les gens sont en agile, ils font des sprints, des revues de sprints, des rétrospectives, il y a un moment où on se dit, Est-ce que par rapport à ce dont on a besoin, on n'a pas consommé trop de ressources cloud? Et puis après, faut remettre aussi la consommation cloud dans le contexte de les émissions carbone de l'entreprise, quoi. Ça se trouve, c'est vraiment négligeable. Par contre, c'est pas parce que c'est négligeable qu'il faut pas le faire. Je pense que c'est aussi le fait d'en parler, c'est aussi de montrer l'exemple, de dire attention, on va essayer de pas consommer trop de ressources. Et je pense que ça, c'est très utile de montrer l'exemple. Et aussi, au-delà de ça, avoir du stock de tout un tas de projets qui tournent et les avoir oubliés, je pense que ça bouffe du temps à tout le monde aussi. Et c'est pas quelque chose de durable. Donc, d'essayer d'avoir une infra maîtrisée, à la fois, voilà, de pas faire tourner des machines pour rien, de les fermer, de faire du ménage de temps en temps. Ben ça, c'est très utile parce que ça dégage aussi du temps qu'on peut mettre sur des nouveaux projets. Donc, garder du stock, c'est pas une bonne idée, quoi, en général. Voilà.
Non, mais c'est intéressant, du coup, que les clients arrivent aujourd'hui avec de plus en plus de questions, justement, sur ces problématiques-là. Ça montre aussi que ça gagne en importance, hein. On va pas se mentir, et c'est bien que des personnes puissent faire des efforts. Et c'est vrai, comme tu disais, ce qui est intéressant sur le cloud, et ça, je pense qu'on tente à l'oublier, c'est que par design, en fait, au niveau de la facturation, je pense que ça incite quand même à pas laisser trop de machines tourner, des choses comme ça.
Voilà.
Parce que, bah, comme tu disais, hein, quand on oublie un cluster quelque part, en général, c'est pas l'empreinte carbone qui va nous choquer en premier, c'est la facture, quoi.
Exactement. Donc, c'est très corrélé, hein. Ouais. Après, c'est l'occasion de mettre des alertes, des choses comme ça. Mais peut-être que parler de carbon footprint, c'est plus utile que de parler de billing. Je pense que ça change la discussion. Et bah oui, c'est faire quelque chose aussi de soutenable pour les équipes, quoi. C'est si on lance 10 projets par jour et qu'on n'en ferme aucun, le temps qui va rester à l'équipe, ça sera zéro, quoi. Donc c'est aussi, j'ai l'impression, lié au temps qu'on a disponible. C'est un peu comme on range sa chambre, quoi. Voilà.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant, du coup, parce qu'on se rend compte que ce qui nous pousse à l'écologie, finalement, c'est souvent pas des notions écologiques, donc c'est sur le cloud. Donc ça, je trouve ça assez intéressant au fond. Et personnellement, je me demande si à terme il y aura pas des notions, on va dire, de consommation comme ça, qui vont être directement corrélées à la facture. On pourrait imaginer. Et même si au final c'est déjà le cas indirectement, on pourrait peut-être imaginer un jour un système un peu comme ça. Mais là, je digresse totalement sur des suppositions.
Et après, peut-être une dernière chose, c'est qu'à un moment, il y aura sûrement des régulations qui vont arriver. Ils seront, donc, on sera obligé de publier le bilan carbone. Et le fait d'avoir son bilan carbone cloud, ce sera quand même utile pour des raisons réglementaires. Alors, c'est souvent pas bon de faire les choses juste parce qu'il y a de la réglementation. Mais ça peut forcer des gens qui ne le feraient pas sinon à le faire.
Oui, là-dessus, je suis un peu d'accord. Les réglementations, c'est toujours... C'est contraignant, on va pas se mentir, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu la seule solution. Et peut-être qu'un jour, on aura des factures où il y aura le bilan carbone dessus de marquer aussi, hein. Donc ça, on peut très bien imaginer. Et de toute façon, je vais prendre un exemple très simple. C'est que typiquement, on sait que les données, c'est très important. Si je change un peu de sujet pour donner un autre exemple, mais on a bien vu que bah, tant qu'il n'y avait pas eu la RGPD, il y avait beaucoup, malheureusement, de données qui étaient un peu traitées. On va pas dire n'importe comment, mais on va dire avec légèreté par des entreprises. Et il y a été... Il y a eu l'obligation d'avoir une régulation pour arriver à quelque chose. Donc, probablement que les questions d'impact environnemental, ben, il va se passer un peu la même histoire là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Je note aussi un truc qui est assez important et on n'insiste pas assez dessus, je pense. C'est qu'aujourd'hui, globalement, l'IT, on pollue, mais il y a quand même, notamment sur le cloud, toutes les notions d'économie et ça qui forcent un peu à mettre des limites. Mais quand vous voulez réduire l'impact environnemental de votre entreprise, essayez aussi de voir de manière plus globale. Ça t'a bien fait de le dire aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres manières de réduire largement l'empreinte, et parfois beaucoup plus. Je pense notamment, voilà, il y a des entreprises avec des parcs automobiles très grands. Mais ça peut être un premier vecteur d'amélioration qui va faire économiser un bilan carbone bien plus gros que ce que vous pourrez économiser en éteignant une VM, même si les deux sont importants et de toute façon ne sont pas faites par les mêmes équipes. Mais essayez de... N'oubliez pas d'aller voir un peu au-delà de l'informatique pour réduire les coûts. On a parlé un peu de pas mal de sujets, du coup. On a parlé un peu, ben voilà, beaucoup de l'aspect, au final, communication, mindset dans le cloud native, aussi des technologies qui sont un peu mises en avant dans le contexte cloud native. Donc, on a parlé un peu de tout ça, on a même fini sur un point un peu plus écologique. Et toi, du coup, en fait, avec tout ce qu'on a dit et avec ce que tu vois aujourd'hui en entreprise, comment tu vois globalement l'évolution, en fait, de ce paysage, entre guillemets, de cloud native dans les années à venir? Et comment tu penses que ça va évoluer? Est-ce que tu penses que ça va déjà perdurer? Ça se trouve, tu pourras me dire, bah non, je pense que ça va être fini à la fin de cette année. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça et comment tu vois les choses?
Alors, moi, je vois ça, je vois deux choses. Alors déjà, de façon personnelle, j'ai beaucoup trop de clients et c'est très bien. Du coup, ça veut dire j'ai de plus en plus de clients, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui en fait. Donc ça, c'est super. Je trouve que la maturité aussi augmente assez vite. Donc ça, c'est bien aussi. Je vois de plus en plus de clients qui arrivent et qui sont déjà au courant, en fait. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Après, il y a le... Je sais pas, c'est comme... on voit encore des téléphones filaires dans les entreprises, quoi. Donc ça, il y aura toujours des gens qui utilisent des téléphones avec des fils. Bon, bah voilà, je fais un peu la comparaison entre les téléphones avec fil et le on-premise, donc ça va rester, quoi. Ça va rester, il va y avoir une queue de comète qui va être assez lente à disparaître. Ça n'a pas vocation à disparaître complètement, mais je pense que, voilà, côté ces sujets cloud native, ça va continuer à prendre de l'importance. Et après aussi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est de plus en plus d'équipes qui trouvent qu'ils avancent pas assez vite et qui font ça dans leur coin, à leur façon, sans forcément en parler dans leur organisation. Et ça, j'en vois de plus en plus. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a du côté des gens de la tech une envie d'arrêter de se casser la tête avec des procédures qui sont longues. De dépenser X milliers d'euros et X temps pour déployer juste une petite machine pour faire un use case simple. Je vois ça arriver de plus en plus. Et du coup, c'est ces équipes-là qui après évangélisent en interne. Et donc, ça, je trouve ça intéressant. Et puis après, il y a tout ce qui est conférences, qui du coup aident beaucoup, je trouve, toutes les conférences techniques. Il y en a plein. Et oui, j'aimerais bien voir plus de retours d'expérience dans des conférences, pas forcément que de développeurs advocates, mais aussi des gens qui viennent dans leur entreprise, dans le contexte de leur entreprise, comment est-ce qu'ils ont fait le passage au cloud native, qu'est-ce qu'ils ont eu comme galère, et pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux depuis qu'ils ont mis en place des nouvelles pratiques. Donc ça, j'aimerais bien voir ça plus dans les conférences, et ça va donner envie aux autres de faire la même chose.
Voilà. C'est vrai que du coup, c'est un peu la continuité, c'est un peu comme le cloud. Je pense que c'est une image qui est pas mal, l'histoire de la vision du marché en queue de comète. Je pense que c'est déjà comme ça que le marché du cloud et cloud native va suivre un peu ce même modèle et ça ne disparaîtra pas. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est que quand tu expliques qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles l'IT est à la limite du shadow IT au final en essayant d'évoluer dans son coin. Donc c'est assez intéressant, ça montre qu'il y a, comme tu dis, une vraie volonté là-dessus, et sûrement que quand ça va remonter côté décideur, bah, peut-être l'importance et les enjeux aussi pour l'entreprise, ça va accélérer l'adoption. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est vrai que pour les conférences, ça serait des fois intéressant d'avoir plus de rex, et je pense plus, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais plus de rex sur les galères, pas juste dire bah, ça c'était cool, ça c'était pas bien, ça a été la merde, on a galéré, ou même on l'a pas pris à cause de ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça serait super enrichissant aussi.
Bah voilà, les... Alors, dans une boîte américaine dans laquelle je suis, ce qu'ils aiment bien montrer, c'est les learnings. C'est pas les galères. Ils appellent ça des learnings, ce qu'ils ont appris. Bon, voilà. Et oui, ça, c'est la partie, je trouve, la plus intéressante. Là où ils sont pris des murs. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on aimerait faire. On se dit, bah oui, pas de souci, en 3 mois, on va déployer une application dans le cloud, on va s'organiser, ça va être fantastique, on va déployer 10 fois par jour. Et puis, ce qui se passe dans la vraie vie, donc, et là, ça prend souvent beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé. Et ça, ce décalage-là, finalement, c'est peut-être ce qui est le plus dur à gérer, c'est entre le fantasme de bah, tout est à dispo, pourquoi est-ce que je peux pas tout finir aujourd'hui, et bah, en fait non, il y a des étapes que je peux pas griller, et ça prend un petit peu de temps. Et ça, ce décalage-là, parfois ça génère de la déception, et je trouve que c'est ça qui ralentit presque plus l'adoption que juste les technos qui sont déjà dispo. En fait, on a déjà tout ce qu'il faut hein, dans le cloud, tout est déjà là. Je pense que oui, c'est les voilà, faut s'investir en temps et aussi en budget et en personne pour craquer ces sujets-là. Voilà.
Oui, ça c'est clairement c'est pas toujours facile à gérer quand on réussit pas ses objectifs, et c'est pas pour autant qu'il faut abandonner entre guillemets, hein, ça arrive. C'est ça. Donc c'est encore une fois, on en revient à l'importance de montrer aussi des échecs pour que les gens voient que ça arrive un peu à tout le monde. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde réussit du premier coup et que le cloud en deux clics, des fois, on a monté toute une infra et surtout on a tout l'écosystème et la vision cohérente côté humain, ce qui est malheureusement pas aussi simple. Heureusement, ça nous fait du travail aussi, on va pas se mentir. Bah du coup, on va passer à la dernière rubrique de cette émission, le tu aimes, tu partages.
Alors, quel sujet j'aime? Bah, finalement, moi j'aime bien discuter avec d'autres techs passionnés. C'est ce que je faisais avant de rentrer chez Google, c'est ce que j'ai fait encore plus en rentrant chez Google, croiser des gens passionnés. Moi j'encourage tout le monde à peut-être aller creuser même des sujets peut-être techniques obscurs, mais qui vraiment les passionnent, les creuser et surtout après derrière les partager dans des conférences ou dans des meet-up. Donc bon, chez nous il y a tout, enfin on aide à organiser plein de conférences. Mes conférences chouchou, c'est les DevFest, donc il y en a pas que à Paris, hein, il y en a partout en France. Je trouve que l'ambiance est sympa et ça vaut le coup de se déplacer, donc il y a Nantes, Lille, Strasbourg, un peu partout. Et puis il y a les meet-up aussi, donc les meet-up, et peut-être aussi ça vaut le coup de participer plus dans ces meet-up, parce qu'il y a bien un moment où on va refaire ces meet-up, pas que en ligne, mais en vrai, et participer à ces meet-up-là, et proposer des sujets, même si c'est qu'un petit sujet de fin de meet-up, 15 minutes, monter sur scène et raconter bah, par exemple ses galères. Je pense que c'est très utile pour tout le monde, même si on a l'impression que tout le monde a déjà eu ces sujets-là, non. Chaque expérience est intéressante, donc allez partager ça dans les meet-up et les conférences.
Voilà. Du coup, ouais, ça continue un peu sur le point qu'on disait avant, n'hésitez pas à les partager, y compris les fails, et surtout bah, ce que vous en tirez comme leçon pour que bah, ça puisse économiser des fails aussi à d'autres personnes. Et comme tu dis, ouais, l'échange, c'est très important, et je pense qu'on a la chance, notamment en France, d'avoir une communauté tech qui se structure de plus en plus et qui est de plus en plus intéressante, ce qui est quand même plus agréable, parce que même si pour la plupart on comprend l'anglais, c'est toujours, je trouve que ça met toujours un petit peu un mur en fait de devoir échanger dans une autre langue, parce qu'on va simplifier peut-être les choses ou des trucs comme ça. Donc je trouve ça vraiment c'est une très bonne chose, et l'échange reste pour moi le fondement du DevOps et de plein de choses, donc c'est très important. Et moi je vais partager un truc pour continuer dans cette idée d'échange, c'est, je vais vous partager un forum pour changer. C'est vrai qu'on n'avait pas partagé de forum encore, mais je vais vous en présenter un. C'est le forum des compagnons du DevOps, qui est assez intéressant parce que c'est un bon, assez gros forum francophone aujourd'hui qui échange autour de plein de sujets sur le DevOps. Donc du coup je vous invite à le rejoindre, et vous pourrez me croiser peut-être dans différents salons. C'est vrai que le forum, c'est une forme qu'on a un peu oubliée, mais qui est assez pratique pour avoir de vrais échanges assez construits, et qui du coup, à mon sens, est très intéressante. Donc voilà, c'est tout pour mon partage, et on a fini du coup cette très belle émission. Donc je te remercie Philippe pour ta présence et d'avoir répondu à nos questions, ça faisait plaisir.
Merci à vous.
Et pour moi, c'était du coup le dernier épisode que j'enregistrais avec vous, donc je vais laisser la main bien sûr du podcast, qui va perdurer encore longtemps, je l'espère, à d'autres UI qui sont tout aussi passionnés et intéressants. Je vous invite bien sûr du coup pour suivre la suite à vous abonner sur les différents flux. On est présent sur Spotify, sur Podcastix, sur un peu tous les flux qui existent, sur Apple Podcast aussi. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Au revoir.